Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui des maladies du rein. Quel mode de vie adopter pour prévenir les maladies du rein? Docteur Vieux Mokoli, chef de l'unité de dialyse péritonéale aux cliniques universitaires de Kinshasa, et notre invité, Docteur Vieux Mokoli, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien au Okapi Service. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Willem Lungamba sur la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Nkeshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de La Vie au quotidien.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bien, la journée mondiale du rein a été célébrée hier jeudi 12 mars 2020. D'après les experts, les maladies rénales sont silencieuses et touchent de plus en plus de personnes dans le monde. Elles apparaissent généralement lorsque 90% des reins sont affectés, d'après les experts, ce qui entraîne des grandes complications chez la personne malade. Alors comment vivre pour mieux protéger ses reins et que faire pour dépister les maladies rénales? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, docteur Vieux Mokoli, chef de l'unité de dialyse péritonéale aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est également membre de l'association congolaise de néphrologie. Docteur Vieux Mokoli, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, quand on parle de dialyse péritonéale, qu'est-ce que cela veut dire? Et la néphrologie, et il faut toujours commencer par la définition des concepts.
Ok, la néphrologie, c'est cette discipline de médecine qui s'occupe de la prévention du traitement des maladies des reins. C'est ça
la néphrologie.
Oui. Okay. La dialyse péritonéale, c'est un type de traitement qui permet de s'y plier à la défaillance des maladies des reins. Quand cette défaillance arrive au stade terminal ou au stade 5, à ce moment-là, on recourt à la dialyse. Parmi les méthodes de dialyse, il y a celle qu'on appelle la dialyse péritonéale, qui utilise la cavité péritonéale comme lieu d'échange pour éliminer les déchets.
D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons de la prévention des maladies du rein. Pouvez-vous nous parler de ces maladies? Qu'est-ce qu'on entend par maladie du rein et comment, qu'est-ce qui est à la base de cela? Qu'est-ce qui cause ces maladies-là?
Oui, les maladies des reins peuvent être subdivisées en deux grands groupes. Il y a des maladies des reins qui arrivent brutalement et qui peuvent être réversibles. C'est ce qu'on appelle en général l'insuffisance rénale aiguë. Et l'insuffisance rénale aiguë, dans 50% des cas, le malade peut récupérer sa fonction rénale intégralement. Et dans 40% des cas, il ne récupère pas totalement. Et dans 10% des cas, il va directement vers une maladie rénale au stade terminal. Donc à ce moment-là, les reins sont complètement foutus. Les grands de cause d'insuffisance rénale aiguë.
D'abord, le rein, c'est quoi et quelle est la fonction, voilà. Le rôle du rein dans l'organisme humain. Voilà, commençons par là.
Ok, alors on peut retenir cinq grandes fonctions des reins.
Oui.
La première fonction, c'est de pouvoir assurer l'équilibre de l'eau et des sels dans le corps. Avec cet équilibre-là, donc les reins arrivent à éliminer l'excès d'eau et l'excès de sel pour permettre à ce que la pression artérielle ne puisse pas monter, puisse être normale, et qu'on puisse pas prendre le poids. Donc le poids va rester constant. Et l'autre
c'est par rapport à tout ce que nous consommons.
Oui, par rapport à ce que nous consommons. Nous consommons du sel, l'excès de sel est éliminé. Nous consommons de l'eau, l'excès d'eau est éliminé par les reins. Mais les reins éliminent aussi des déchets que l'organisme, que le corps produit tous les jours. Ces déchets sont éliminés à travers les urines. Et ces déchets peuvent être d'origine interne ou bien externe, comme les médicaments, par exemple, que nous consommons. Mmh. Ils sont, dans la plupart des cas, éliminés par les reins.
L'autre au travers rôle des reins, urines.
Au travers des urines. L'autre rôle des reins, c'est de pouvoir éliminer aussi les acides, les déchets acides, pour maintenir la concentration des protons, des acides, à un niveau très bas pour permettre à ce que la vie soit possible. Alors, si les reins sont malades, à ce moment-là, les déchets acides s'accumulent et la vie ne peut pas être possible.
On peut dire que les reins assurent le rôle de filtre.
Oui, le filtre. Ça, c'est par son rôle de filtration que l'eau, l'excès de sel et même les acides sont éliminés. C'est par ces moyens-là et d'autres déchets. L'autre rôle
au travers des urines uniquement.
Oui, au travers des urines. Mais l'autre rôle des reins, ce n'est pas à travers les urines, mais c'est d'assurer et l'équilibre du calcium et du phosphore pour une bonne ossification des os. Nos os sont formés essentiellement du calcium et du phosphore et les reins arrivent à maintenir le calcium et le phosphore à un niveau tel que nos os puissent être solides et que notre squelette puisse nous faire tenir debout. Donc quand les reins sont malades, même les os deviennent fragiles et on peut avoir des fractures inexpliquées. Enfin, les reins participent aussi à la fabrication du sang. Comment cela? En produisant une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine qui va stimuler la moelle pour produire du sang. Donc, cinq grands rôles. Et ces rôles-là font que les reins ont un rôle vital. Sans les reins, la vie n'est pas possible.
Alors, il y en a combien dans le corps humain et ils sont situés à quel endroit exactement?
Oui, nous avons généralement deux reins. Des reins qui sont situés au niveau de la fosse lombaire, donc derrière, le dos, et ils sont généralement deux. Mais, exceptionnellement, il y a des gens qui, de façon congénitale, naissent avec un seul rein. On peut vivre avec un rein. Il y en a aussi qui sont exceptionnellement, qui ont beaucoup plus de reins, trois. Ça peut arriver, mais ce sont des malformations. Mais d'habitude, nous avons deux reins qui sont situés derrière le dos, au niveau de la des fosses lombaires.
Alors, qu'est-ce qui peut faire, quelles sont les causes ou les raisons qui peuvent faire que le rein connaisse des dysfonctionnements ou ne fonctionne plus bien?
Oui. Donc, nous avons deux grandes catégories, comme je le disais tantôt. Il y a ce qu'on appelle des atteintes aiguës ou l'insuffisance rénale aiguë. Là, c'est un dysfonctionnement qui vient rapidement, qui s'installe rapidement, avec beaucoup de signes. Et en tête, dans notre milieu, c'est d'abord la malaria. La malaria est la principale cause de l'insuffisance rénale aiguë aujourd'hui. À côté de la malaria, il y a d'autres infections, comme la fièvre typhoïde, comme des infections généralisées. À côté des infections, il y a aussi la néphrotoxicité, la prise des produits qu'on appelle néphrotoxiques, des produits qui font du mal aux reins. Ça peut être d'origine pharmaceutique, comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme certains antibiotiques, comme la gentamicine. Mais aussi, il y a des plantes. L'utilisation des plantes aujourd'hui est associée...
Les plantes médicinales.
Des plantes médicinales non sécurisées. Des plantes traditionnelles.
Voilà. Hein, les gens vont chez les tradis praticiens.
Chez les tradis praticiens, ils n'ont pas de dose pour un même médicament. On peut prendre un verre ou une bouteille ou un bidon. Et la durée n'est pas connue. Souvent, comme les rôles des reins, c'est d'éliminer les déchets, dont les médicaments aussi. Quand un médicament est toxique, les reins peuvent tomber malades. Et à peu près 20% des cas d'insuffisance rénale aiguë sont liés, donc un cas sur cinq d'insuffisance rénale aiguë est lié à la prise des produits traditionnels. Donc, c'est ainsi qu'il faut vraiment que la population fasse attention des publicités tapageuses.
Oui, les tradis praticiens dans toutes les chaînes de télévision, ils vendent leurs produits, des produits qui guérissent toutes les maladies.
Oui, malheureusement, ceux qui sont morts de ça ne témoignent pas.
C'est ça le problème.
Donc, on voit, on sélectionne. J'ai même vu un malade qu'on a suivi aux cliniques qui a témoigné qu'il était guéri. Les images sont restées, mais ce malade était déjà mort. Il est mort, mais les images sont restées. Pour faire la publicité d'un produit.
Mais la personne est déjà décédée.
Déjà décédée comme conséquence de la néphrotoxicité. Donc il faut vraiment pas se laisser avoir, sinon c'est une catastrophe. Il faut savoir que tout médicament est un poison. Tout dépend de la dose et de la durée d'administration.
Alors là, vous venez de parler des causes de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, il y a aussi, vous étiez en train de parler des deux types.
Oui, il y a aussi l'insuffisance rénale chronique. Bon, on peut s'arrêter là, mais il y a d'autres causes. Par exemple, il y a des obstructions des voies urinaires qui peuvent aussi être à l'origine d'insuffisance rénale aiguë. Par exemple, ceux qui souffrent de la prostate, qui bloquent l'évacuation des urines, ils peuvent faire aussi une insuffisance rénale aiguë. Il y a des diarrhées, des déshydratations qui peuvent aussi être à l'origine des insuffisances rénales aiguës. L'autre groupe, c'est maintenant ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Ou la maladie rénale chronique. Là, c'est un dysfonctionnement qui arrive lentement, de façon insidieuse, mais progressivement, et qui va progressivement vers le stade terminal, ou le stade 5. Là, il y a trois grandes causes d'un autre milieu. Il y a les infections chroniques, qui sont à la base de la maladie rénale chronique, les infections chroniques, il y a les VIH, il y a les hépatites, par exemple. Et il y a l'hypertension artérielle et les diabètes sucrés, qui sont deux grandes causes des maladies rénales chroniques. Mais il y a aussi d'autres causes qui sont liées à des maladies génétiques, comme des polykystoses rénales, et même l'utilisation aussi des produits traditionnels ou des anti-inflammatoires au long cours peuvent à la longue donner aussi une maladie rénale chronique.
Voilà, quels sont les symptômes des maladies rénales?
Oui, pour l'insuffisance rénale aiguë, les symptômes sont là. On va voir que la personne n'urine pas brusquement, la personne n'urine plus. Et là, quelqu'un peut être alarmé, que tiens, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, j'ai pas uriné. Toute la journée, j'ai pas uriné, ça peut être alecté. Donc, l'insuffisance rénale aiguë donne des symptomatologies qui peuvent alecter. Ça peut être aussi des vomissements, des diarrhées, ça peut être des douleurs abdominales, mais malheureusement, on va attribuer ça à autre chose. Pas à l'insuffisance rénale aiguë. Et puis, comme l'insuffisance rénale aiguë est causée par des infections, les signes d'infection vont masquer, en fait, aussi les signes d'insuffisance rénale. Donc, les gens vont plus s'attarder sur la maladie causale, par exemple, la malaria ou la fièvre typhoïde.
Et s'attaquer à la racine du problème.
Et oublier qu'il y a une insuffisance rénale aiguë. Par contre, les manifestations de la maladie rénale chronique sont insidieuses. Au début, il n'y a aucun symptôme. Donc, si on fait pas un dépistage ou un diagnostic précoce, on saura pas qu'on est malade.
Ça vient à bas bruit.
À bas bruit. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, ici, 13% de la population a une maladie rénale chronique. Ça fait un quinoa sur 8. Mais la majorité ne le savent pas.
13% de la population.
13% de la population quinoise. Maladie rénale chronique. Mais beaucoup ne le savent pas parce que c'est au début et il n'y a pas de symptomatologie. Quand maintenant les signes apparaissent, généralement c'est au stade très avancé. Ces signes-là, ça peut être quoi? Ça peut être, on commence à gonfler. On prend du poids. Il faut pas faire des compliments à quelqu'un qui prend du poids de façon anormale. Ça peut être ainsi des maladies des reins. Les visages se gonflent le matin ou bien les œdèmes au niveau des pieds. Ça peut être aussi une anémie chronique. La personne, son sang diminue. Généralement, on va attribuer ça à autre chose, mais ça peut être lié à une insuffisance rénale chronique. D'autres causes, ce sont des vomissements, des diarrhées, les manques d'appétit, l'amaigrissement, la tension qui monte. Ça peut être les signes aussi d'une maladie rénale chronique. Mais nous rappelons que ces signes-là apparaissent quand c'est déjà au stade très avancé. Mais au début, généralement, il n'y a pas de symptomatologie. Voilà pourquoi c'est très important de se dépister pour savoir déjà comment fonctionnent mes reins. Et les examens pour le dépistage, ce sont des examens simples qui peuvent déjà nous aider à pouvoir diagnostiquer à temps les maladies des reins et freiner l'évolution vers des stades beaucoup plus sévères dont les
traitements nécessitent. Est-ce que les maladies des reins sont mortelles, docteur?
Ah oui, mortel. Dans les études qui ont été faites, par exemple, en rapport avec l'insuffisance rénale aiguë chez nous, un malade sur trois meurt. Quand il y a une insuffisance rénale aiguë, donc à peu près 30%, la mortalité est de 30%. de cette mortalité est encore plus grave ailleurs. Parce que 50 à 60% des décès en cas d'insuffisance rénale aiguë. Quant à la maladie rénale chronique, quand c'est au stade 5, quand il n'y a pas de moyens de suppléance, soit la dialyse, soit une transplantation des reins, la mortalité est de 100%. Donc quand on a une maladie rénale chronique au stade 5 et qu'on n'est pas traité, on finira par mourir de cela.
Alors, on va accueillir tout à l'heure les auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les maladies des reins? Quel mode de vie faut-il adopter, docteur, pour prévenir les maladies des reins?
Oui, étant donné que les traitements au stade avancé coûtent cher et que c'est vraiment hors de portée de la population congolaise, il faut bien faire la prévention. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il y a les 8 règles d'or pour prévenir les maladies des reins. Ici, nous parlons des personnes dont les reins sont encore sains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 8 règles à retenir.
Lesquelles?
La première règle, c'est qu'il faut boire régulièrement de l'eau. Dans nos milieux, il faut boire à peu près 1,5 litre à 2 litres d'eau tous les jours. Mais 2 litres d'eau, c'est quand il fait chaud. Et 1,5 litre, c'est en moyenne ce qu'il faut prendre tous les jours. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut faire la cure d'eau. Parce que la cure d'eau, à la longue, pose des problèmes aux reins. Ça finit par créer des maladies
des reins. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils n'ont encore rien mangé, ils font la cure d'eau.
La cure d'eau. 5 litres d'eau, ils ingurgitent 8 verres, 10 verres.
Ils disent que ça purifie l'organisme, ça vous permet d'éliminer les toxiques.
Ça fait travailler les reins parce qu'on va uriner beaucoup et à la longue, les reins vont se fatiguer et on va faire une maladie rénale chronique.
Avant d'aller plus loin, on va accueillir les auditeurs pour ne pas les faire trop les faire attendre. Quel mode de vie adopter pour prévenir les maladies de reins? Docteur Vieux Mokoli, chef de l'unité des dialyses péritonéales aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et notre invité des questions et préoccupations, composez les 081 890 63 94.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Quel mode de vie adopter pour prévenir les maladies des reins? Joël, vous nous appelez depuis Mahagi. Bonjour. Bonjour Joël.
Bonjour Jody. Oui, bonjour Jody et bonjour à notre invité du jour.
Quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Ok, merci de m'avoir accordé la parole sur le sujet du jour. Et en tout cas, c'est un sujet vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça a donné que monsieur le docteur a cité pas mal, en tout cas, les rôles, donc les travaux qui jouent les reins dans l'organisme. Mais en tout cas, j'ai 4 questions, permettez de pouvoir les poser. Et puis, j'aimerais que les docteurs puissent en tout cas répondre à toutes ces questions. Parce que
allez-y rapidement, passez déjà aux questions, vous n'avez pas beaucoup de temps.
Ok, voilà. Les reins sont seuls chez l'homme ou la femme en a aussi, là c'est la première. La deuxième des questions. Il existe des aliments qui peuvent favoriser le fonctionnement des reins. La troisième, la masturbation chez l'homme peut-il causer le dysfonctionnement des reins chez l'homme? Et la quatrième et la dernière, la sexualité aiguë peut être aussi à la base du dysfonctionnement des reins parce que des fois, voilà.
C'est quoi la sexualité aiguë? Joël, c'est quoi la sexualité aiguë?
Quelqu'un qui se donne trop à la sexualité, donc un homme peut-être avec des multiples partenaires, ce moment, il fait la sexualité. Est-ce que cela peut aussi causer le dysfonctionnement de l'homme?
Merci. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je voulais au moins demander des précisions à l'invité par rapport à l'âge. À quel âge quelqu'un peut déjà présenter les symptômes de la maladie rénale? C'est parce que nous avons deux cas ici, monsieur Jody, de figure constatés dans notre village. un papa de 64 ans a présenté des problèmes sérieux de prostate. Il urinait difficilement, monsieur Jody. Il a fallu qu'il soit sous sonde pour commencer à évacuer sa vessie. Alors, il vidait la vessie à l'aide de ces sondes-là. Il est parti à l'hôpital, Dieu merci. On l'a fait, il a subi une opération chirurgicale. Le médecin l'a expérimenté, a quand même donné les résultats escomptés. Le papa est en vie, contrairement aux autres qui disaient que quand tu as déjà la prostate, c'est la mort, ne t'entends à rien. Seulement les tradis praticiens qui disent que la médecine moderne n'a pas de solution, c'est seulement eux. Mais quand nous étions partis à l'hôpital avec ces papas-là, Dieu merci, il a survécu. C'est pourquoi je voulais un peu demander à l'invité, c'est à quel âge qu'on peut alors déjà présenter des signes comme les signes de prostate. Deuxièmement, c'est une jeune fille, monsieur Jody. Et là aussi, l'insuffisance rénale. Elle commençait à se faire beaucoup de soucis parce qu'on lui avait dit que l'insuffisance rénale tue plus que le cancer, tout comme le sida. Alors, elle a dit que bon, je suis en train de mourir, je ne sais pas, je n'ai pas encore donné naissance. C'est pourquoi je voulais demander à l'invité, à quel âge quelqu'un peut déjà présenter les signes des maladies rénales? Il a parlé encore de l'eau. Ça, c'est la première question, la deuxième préoccupation. Monsieur Jody, est-ce qu'au-delà de 2 litres par jour d'eau que quelqu'un peut prendre, si on arrive jusqu'à 3, parce qu'on peut arriver que quelqu'un est malade, mais il n'a pas de l'eau dans le corps, il doit être perfusé. Alors, la perfusion, si on le fait le matin, à midi et le soir, n'est-ce pas aussi une manière de créer déjà une maladie à la longue à la personne qui a présenté une autre maladie maintenant?
Merci.
Résoudre un problème, c'est créer un autre, non?
Merci. Merci, Kachai. Platini, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Aujourd'hui, bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux maladies des reins?
Merci beaucoup. Aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, je ne serai pas trop kilométrique, mais c'est un peu trop bref, parce que j'ai tout suivi l'invité. Il a tout parlé par rapport à la thématique du jour. Et merci, pour moi aussi, ça m'a fait un honneur, parce que l'équipe d'eau, c'est le système que je fais chaque jour, chaque matin. Alors moi, je voudrais, si l'invité peut nous dire, parce que le là, spécialiste amateur, c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît les tout. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont aussi héréditaires? Parce que si un parent, soit une maman, attrape une maladie, est-ce que les enfants, ou toutes les familles, peuvent attraper cette maladie, c'est qu'on peut dire, en termes courts, une héréditaire?
D'accord.
Pour ce que je peux avoir une idée, je vais inviter, si l'invité peut nous expliquer.
Merci. Est-ce que les maladies voilà, des reins sont héréditaires? D'accord, merci bien. Docteur Vieux-Moukoli, la première question de Joël, il veut savoir si les femmes aussi, est-ce que les maladies des reins touchent non, il veut savoir si les femmes aussi ont des reins, et les femmes et les hommes tous ont des reins de la même façon.
Effectivement, aussi bien les hommes que les femmes ont les reins.
Voilà.
Et les reins n'ont rien à voir avec la reproduction, contrairement à ce que les gens pensent. Les rôles, c'est de produire les urines, d'éliminer les déchets comme on a vu, et même la femme a besoin d'éliminer les déchets, d'éliminer l'excès d'eau,
les fesses,
donc c'est pareil.
Alors il dit, y a-t-il des aliments qui assurent le bon fonctionnement des reins?
Oui, les aliments, il faut un régime équilibré en général. Donc une bonne alimentation peut protéger les reins. Par une bonne alimentation, on attend, il faut éviter les excès de sel. Il faut pas consommer trop de sel. Il faut éviter de mettre beaucoup d'huile dans l'alimentation, parce que l'excès de graisse peut favoriser les maladies des reins. Il faut également, dans notre alimentation, veiller à ne pas consommer beaucoup de viande. Donc, il faut privilégier les fruits et les légumes et éviter de prendre le poids, parce que le surpoids ou l'obésité c'est aussi un facteur.
Donne beaucoup plus de travail aux reins.
Bien sûr. Et puis, les graisses peuvent s'accumuler au niveau des reins et provoquer aussi des maladies des reins. Il faut aussi veiller à la consommation d'alcool. Par exemple, il faut si on ne sait pas se maîtriser par rapport à l'alcool, il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas prendre, par exemple, au-delà d'un verre de bière par jour. Un verre. Et l'homme ne peut pas prendre au-delà de 2 verres de bière par jour.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est pas le cas.
Les gens terminent des
casiers. Alors, si c'est un couple qui prend l'alcool, alors une bière suffit. L'homme prend deux verres, la femme un verre. Mais si on ne sait pas se maîtriser et qu'on va au-delà, on s'expose aux maladies des reins.
Donc, alors, vous avez parlé de huit éléments qui nous permettent de prévenir les maladies des reins.
Oui.
D'abord, vous avez parlé de boire régulièrement de l'eau, un litre par jour.
Oui.
Et deuxième élément.
Les régimes alimentaires. Nous avons dit éviter l'excès de sel, les sels. Il faut vraiment manger très peu de sel, très peu d'huile, hein, et très peu de sucre. Hein. Il faut vraiment éviter beaucoup de sucreries parce que les sucreries peuvent non seulement favoriser l'obésité, hein, la prise de poids, mais aussi favoriser les diabètes sucrés, qui est une des causes importantes des maladies rénales chroniques.
Troisième élément.
Et troisième élément, il faut pratiquer l'activité physique, la marche. Il faut pas être sédentaire, parce que la sédentarité amène à ce qu'on puisse prendre du poids, et quand on prend le poids, on s'expose aux maladies rénales chroniques. Donc on demande à ce que, en tout cas, chaque jour qu'on fasse au moins 30 à 45 minutes de marche. Si on ne sait pas le faire, au moins 3 fois par semaine, 45 minutes de marche, par exemple, c'est bénéfique pour préserver ses reins à long terme. La quatrième mesure, il faut éviter l'automédication. Et par automédication, on attend aussi bien l'utilisation des produits pharmaceutiques, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, hein, des anti-inflammatoires comme du diclofénac.
Aujourd'hui, les gens sont devenus leurs propres médecins.
Ou les propres médecins.
Il suffit d'un petit problème, il sait déjà.
Anti-inflammatoire. Voilà. Parfois, il est déshydraté, mais il prend les anti-inflammatoires et il bloque ses reins. Donc, c'est vraiment dangereux. Et l'automédication aussi aux produits traditionnels. Nous ne le dirons jamais assez. Les produits traditionnels sont en train de faire des ravages.
Toutes ces portions-là.
La dose n'est pas connue. On dit une cuillerée. Tantôt, c'est un bidon qu'il faut prendre pendant 30 jours. Ou 3 jours, on est en train de faire des expérimentations sur les hommes, de tuer les hommes. Il faut vraiment qu'on réglemente ces secteurs-là, parce que c'est une catastrophe pour la population qui est de recourir aux produits. Et tu vas voir quelqu'un qui prétend guérir une maladie qu'il ne connaît même pas. On dit, on va guérir la prostate. Oubliant que la prostate, c'est pas une maladie. C'est un organe.
Il y a des produits qu'on nous vend ici, on dit ça, c'est le thé chinois. Dès que tu prends ce thé, ça purifie le corps. Il y a d'autres qui vendent des produits dans des bidons, des antioxydants, tout ça.
Le thé chinois a été reconnu néphrotoxique déjà en Europe. Ça a donné une épidémie des maladies des reins déjà en Europe. Surtout les thés amaigrissants. Il y en a qui prennent des thés pour maigrir.
Pour maigrir,
tout ça.
Bien sûr.
C'est néphrotoxique. Donc il faut vraiment éviter cela. Quand on a des problèmes, c'est mieux vaut voir les médecins, plutôt que voir des tradis praticiens, parce qu'après, on ne récupère plus.
Cinquième élément.
Le cinquième élément, c'est qu'il faut bien surveiller sa tension artérielle. Parce que l'hypertension, c'est vraiment une des causes importantes des maladies rénales chroniques. Il faut de temps en temps mesurer sa pression artérielle parce que l'hypertension n'a pas de symptômes. Quand la tension monte, on ne sait pas dire qu'on est hypertendu. Mais c'est en prenant la tension que si la tension monte, on peut se dire, tiens, je suis hypertendu, il faut que je puisse me soigner par rapport à l'hypertension pour préserver mes reins. L'autre mesure, donc la sixième mesure, c'est qu'il faut au moins une fois voir le néphrologue pour faire le dépistage des maladies des reins. Le dépistage, ça demande des examens simples, comme l'examen d'urine tout simplement. On peut rechercher les protéines dans les urines. La présence des protéines dans les urines, ou la présence du sang dans les urines, ou des globules blancs en grande quantité dans les urines, peut déjà signer une maladie rénale. Donc c'est très bien qu'une fois là au moins qu'on puisse faire l'examen d'urine et puis qu'on puisse faire aussi l'examen des créatinines et l'urée dans les sangs. Si les taux augmentent, ça peut vouloir dire qu'on a une insuffisance rénale chronique. Et comme il n'y a pas de symptomatologie, on peut maintenant être suivi pour ralentir la progression de la maladie vers des stades beaucoup plus sévères. L'autre mesure, donc la septième mesure, c'est qu'il faut arrêter les tabacs. Par les tabacs, on attend aussi bien la cigarette que les tumbacos que les gens mettent au nez. Parce que les tabacs est un grand facteur des maladies rénales chroniques. Il faut vraiment arrêter les tabacs. Dans les étiquettes des cigarettes, on écrit
fumer,
préjudiciable
à la santé.
Mais quand on dit préjudiciable, il y en a même qui ne savent pas ce que ça signifie.
Oui, il y a quelqu'un qui avait dit préjudiciable veut dire c'est bon pour la santé.
Mais maintenant on dit ça nuit à la santé. Mais quand on dit qu'on nuit à la santé, parfois les gens ne comprennent toujours
pas.
Donc il faut vraiment marteler que le tabac c'est un poison pour les maladies des reins. Il faut pas fumer du tout ni utiliser les tumbacos par quelques moyens que ce soit. Enfin, il faut surveiller aussi les sucres. Hein, il faut de temps en temps, même une fois tous les 6 mois, faire un peu la glycémie, parce que le diabète sucré, c'est une grande cause également des maladies rénales chroniques. Et quand aussi les diabètes, surtout les diabètes de type 2 commencent, généralement il n'y a pas de manifestations aussi. Il faut faire la glycémie. Si on voit que ça monte, on peut déjà prendre des mesures pour préserver ses reins.
Joël de Mag a posé des questions. Est-ce que la masturbation peut conduire au développement des maladies des reins? Et puis quelqu'un qui a une vie sexuelle
débridée,
voilà, qui a plusieurs partenaires, est-ce que il est exposé, cette personne est exposée aux maladies des reins?
Oui, la masturbation n'expose pas aux maladies des reins. Ça, c'est clair. Par contre, une sexualité débridée avec plusieurs partenaires expose aux infections, comme le VIH, comme l'hépatite B, comme l'hépatite C, qui se transmettent par voie sexuelle. Mmh. Et ce sont des causes, ces infections-là sont des causes des maladies rénales chroniques. Donc, quand on a une sexualité débridée, on s'expose aux infections chroniques, comme le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, et on peut effectivement être susceptible de développer une maladie rénale chronique par le biais des infections dont nous venons d'évoquer.
Kachai de Kanyoka a posé une question. À quel âge on peut présenter des signes des maladies des reins?
Les maladies des reins peuvent se voir aussi bien à la naissance qu'à la fin de vie. Il n'y a pas d'âge. Par exemple, il y a des nouveau-nés qui naissent avec des malformations, donc qui ont déjà des maladies rénales chroniques dès la naissance. Hein, surtout les garçons, parfois il y a des garçons qui naissent avec des malformations, des voies urinaires, ils ne savent pas évacuer les urines. Mmh. C'est déjà une maladie rénale chronique déjà à la naissance. Et puis il y a des maladies héréditaires comme la polykystose qui commencent déjà depuis la naissance, mais les manifestations viendront plus tard, 30-40 ans. Oui. Mais déjà la naissance, déjà c'est une maladie.
Et surtout que vous avez dit, ça évolue à bas bruit.
À bas bruit, effectivement. Donc si on a des parents qui ont des maladies rénales chroniques, il faut faire le dépistage chez tous les autres membres, parce que le fait d'avoir un parent qui a une maladie rénale chronique multiplie les risques de développer une maladie rénale chronique.
Bah, c'est ça même la question de Platini de Mandaka. Est-ce que c'est héréditaire?
Oui, il y a des maladies qui sont franchement héréditaires, comme la polykystose rénale. Donc il y a des kystes au niveau des reins. Ça se transmet des parents aux enfants. Mais il y a aussi le fait que quand on est dans une famille d'hypertendus, des diabétiques, donc on est exposé soi-même aussi à des pathologies comme ça, hypertension, diabète, qui sont susceptibles aussi de favoriser la maladie rénale chronique. Donc il faut vraiment une surveillance étroite quand les proches parents ont des problèmes d'hypertension, des diabètes ou bien des maladies rénales chroniques.
Comment prévenir les maladies de reins? On en parle dans cette émission au Capi Service. Je reviens à vous, docteur. Le temps d'accueillir docteur Kipasa, qui nous appelle des Kikwit, Shadrach et Tambujimai. Docteur Kipasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour confrère. C'est une très belle émission. Je voudrais lui demander d'élaborer un peu plus sur l'abus de médicaments que nous trouvons dans la pharmacopée traditionnelle. Et aussi, comme il a mentionné là, l'histoire des thés amaigrissants, là, des thés chinois, des choses comme ça. Parce que les gens abusent, par exemple, de l'aloe vera. Et que ce soit en le prenant comme médicament ou en l'utilisant dans le produit cosmétique.
Oui.
Et de deux, chaque fois que j'ai fait une très belle émission hier à propos de cette chaleur et la déshydratation et les complications au niveau du rein. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais docteur, alors, vous acceptez que nous fassions la cure d'eau? Ils prennent, le docteur a dit tout à l'heure, dans notre climat, avec cette chaleur, allons à 1,5 à 2 litres. Mais il y a des gens qui font l'excès. Et avec la cure d'eau chaque matin, et si vous pouvez élaborer aussi là-dessus avec des complications telles que le glaucome et d'autres choses, pour que la population arrive vraiment à comprendre qu'il ne faut pas verser dans l'excès. Et ça on va d'un point à un autre, en favorisant d'autres maladies qu'on aurait pu éviter. Merci, Jody.
Bien. Shadrach, vous êtes en Mbujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Jody Daniel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question, Shadrach?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Jody. J'ai deux petites questions à poser. La première préoccupation qui me concerne personnellement, moi, je ne fais pas la cure d'eau, mais je prends beaucoup d'eau. Si je peux évaluer, M. Jody, sans perdre d'être contredit, je prends moi plus de 5 litres par jour. Parce que moi, je suis comme ça. C'est dès la naissance. Moi, j'ai beaucoup soif. Je prends beaucoup d'eau. Mais néanmoins, je suis là.
Plus de 5 litres par jour.
Effectivement, même mes parents savent, même mes parents, tout le monde connaît que Shadrach Kapso Kankwende prend beaucoup d'eau, je vous dis. C'est comme ça, je suis fait aussi comme ça. J'ai soif à chaque temps. Ce matin, c'est quand je vous parle depuis le matin, j'ai déjà pris au moins 1,5 litre. Alors, okay. La question que je voulais maintenant adresser à l'invité, je suis une exception ou parce que c'est l'autre fois où j'étais allé voir le médecin, parce qu'à force de prendre, j'étais allé voir le médecin, je crois qu'il n'est pas spécialiste, mais qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit non, c'est une bonne chose. Vous savez, à chaque fois où vous urinez, vous dégagez autant de déchets, je crois qu'à la longue, vous n'aurez pas de problème des reins. Alors, je me trouve devant une contradiction. Voilà le pourquoi je voulais que l'expert, le doc qui est là sur place, il peut m'éclairer là-dessus. Et aussi, la deuxième question, il s'avère que nous avons un peu d'amis, ainsi de suite, qui sont de médecins. Mais à chaque fois, il vous prend un casier de la bière, de la scotch.
Par jour.
Par jour, je vous dis tout à fait. Mais moi, je n'en prends pas. Et lorsque je lui pose de faire la question, il me dit à chaque fois où je pars écouler, parce que quand vous prenez la bière, vous urinez. À chaque fois où vous urinez, vous dégagez des maladies, des infections. C'est-à-dire qu'à la longue, vous n'aurez pas de problème des reins. Voilà un peu mes deux petites questions, monsieur Jody. J'ai dit, je vous remercie.
Bien. Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Ngachama. C'est monsieur Alidor Moutibela à Kananga.
Oui, Alidor Moutibela, quelle est votre question?
Ok, la même question est de savoir, pour nettoyer nos reins, nous pouvons boire combien de litres d'eau par jour? Première question. Deuxième question, à quel âge une personne peut commencer à souffrir de maladies des reins? Troisième question, est-ce qu'il y a des médicaments dans nos pharmacies qui peuvent nous permettre, à chaque fois que nous pouvons prendre ces médicaments-là pour nettoyer nos reins? Là, c'est trois questions là, monsieur Denis. Je dis et je vous remercie.
Merci, docteur Viomokoli. Vous avez la parole.
Ok, je vais revenir sur la prise d'eau. Hein.
Oui.
Je crois qu'il y avait même une question qui était posée avant. Est-ce que les perfusions,
voilà.
Oui. Quand nous disons qu'il faut prendre 1,5 litre à 2 litres d'eau, nous sommes dans une situation où quelqu'un n'est pas déshydraté, où sa quantité d'eau est
la
normale.
Quantité normale. Oui.
C'est le cas de la majorité de la population.
Oui.
Ok. À ce moment-là, 1,5 litre à 2 litres. 2 litres quand il fait chaud, c'est suffisant. Si on va au-delà, les études ont bien montré qu'à la longue, on développe une maladie rénale chronique qu'on appelle glomérulosclérose focale et segmentaire, qui est une des grandes causes d'insuffisance rénale chronique au stade terminal. Mmh. Alors, pour Shadrach, qui a l'habitude de prendre 5 litres d'eau et qui a soif,
par jour. Voilà.
Il faut qu'on puisse pousser les investigations plus loin pour voir s'il n'a pas une maladie qu'on appelle diabète insipide. Il y a des personnes qui ont la maladie qu'on appelle diabète insipide. À ce moment-là, ça se manifeste par une, ce qu'on appelle une polyurie, les urines très abondantes.
Mmh. Et par compensation. 5 litres, c'est quand même beaucoup par jour.
Oui, généralement, ce sont des personnes qui vont prendre 3 litres, qui vont uriner 3 litres, 4 litres. Hein, parce qu'il y a une maladie qui fait qu'il y a une hormone qui n'arrive pas à retenir l'eau au niveau de l'air. Hein. Donc, il faut voir s'il n'y a pas un diabète insipide qui fait que il urine beaucoup. Comme il urine beaucoup, il a soif et il veut compenser. Donc, voilà. Ça peut être une maladie. Et aussi qu'il puisse s'assurer qu'il n'a pas une maladie rénale chronique. Donc, il faut bien faire les dépistages pour voir si il n'a pas de protéines dans les urines, s'il n'y a pas les taux de créatinine et l'urée qui sont augmentés. Donc, parce qu'il y a parfois des maladies comme ça, diabète insipide, et c'est généralement depuis la naissance qu'on a ça. Ça peut donner une polyurie avec une compensation, mais ce n'est pas une situation normale. Donc, il faut d'abord qu'ils se disent que ce n'est pas normal qu'ils boivent 5 litres depuis l'enfance. Ce n'est pas normal. Mmh. Il doit y avoir un problème.
Et alors, son ami qui prend un casier de bière chaque jour.
Oui, ce sont des personnes qui ne vont pas vivre longtemps. Ils vivront pas longtemps parce que au-delà.
L'ami lui dit le fait d'aller uriner à tout moment.
Pas du tout.
On élimine les déchets et puis pas de problème.
Ouais, justement, on sait que l'alcool inhibe l'hormone dont je parle là, qui retient les urines. Comme cette hormone-là est inhibée, à ce moment-là, on urine beaucoup. C'est l'inhibition de cette hormone-là dont j'évoquais. Donc, prendre beaucoup d'alcool expose aux maladies rénales chroniques. Mais pas seulement. Ça expose aussi aux maladies du foie, cirrhose. Ça expose aux maladies de cœur, de cardiomyopathie, donc des dilatations des cavités cardiaques. Donc, c'est toxique qu'il y ait d'abuser de l'alcool. Et généralement, on meurt très vite. Bon, si on veut mourir précocement, on n'a qu'à suivre la voie des casiers par jour. On vivra pas longtemps.
Et ceux qui prennent les lotocos.
C'est pire encore. Parce que les taux d'alcool est beaucoup plus élevé encore. Donc, c'est beaucoup plus néphrotoxique encore. Bon, maintenant, si on revient maintenant dans les cas où quelqu'un fait des diarrhées. Par exemple, il y a une diarrhée, il a vomi. À ce moment, on peut comprendre qu'il reçoit beaucoup de perfusions pour compenser. Hein, donc, il faut pas dire que le docteur a dit qu'on peut pas me perfuser plus de 3 litres. Non, c'est cas par cas. Au cas où quelqu'un a fait une diarrhée, ou bien il a vomi pendant longtemps et qu'il a perdu de l'eau, il faut compenser. Et la compensation peut aller plus loin. Mais dans ces conditions normales, il faut pas dépasser 2 litres d'eau quand il fait chaud. Nous sommes en moyenne 1 litre et demi. Au-delà, on fait souffrir les reins. Parce que nous avons dit que les reins ont comme rôle d'éliminer l'excès d'eau. Mais quand vous surchargez le travail des reins, il finit par se fatiguer.
Oui, il va se fatiguer, malade. Il va lâcher.
Effectivement. C'est comme quelqu'un qui prend aussi beaucoup de sel. Il va surcharger aussi le travail du rein. Et à un moment, le rein n'arrivera plus à faire son travail.
Docteur Kipas est revenu sur les potions, les produits traditionnels, les traduits praticiens. Et puis ceux qui prennent des produits à base d'aloe vera, les thés chinois qui disent, voilà, ça, des antioxydants, ça soigne l'organisme.
Oui, j'ai souvenu avec docteur Zing, on n'aura peut-être pas le temps. Docteur Zinga Chantal travaille ici la néphotoxicité aux plantes. On a fait déjà un répertoire de plantes dont la toxicité a été prouvée, de plantes dès chez nous. Donc il y a toute une étude qui est déjà faite, qui est déjà très avancée.
Oui.
Hein, donc c'est déjà quelque chose qui va être présenté peut-être cette année déjà. Donc il y a un répertoire qui est fait. Nous avons vraiment fait un travail de fond et les plantes sont connues. Donc peut-être une autre émission pourra être consacrée à la néphrotoxicité et elle pourra énumérer clairement des plantes qui ont été impliqué.
On va accueillir 3 autres auditeurs avant de poursuivre. Ferdinand et Tamata Diamis, ils nous appellent des Kindou et Kabouaï de Lubumbashi. Ferdinand, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Merci. Je salue notre invité qui est sur le plateau. J'avais des préoccupations. Curieusement, une a été déjà vidée et je suis resté avec une.
Laquelle?
Alors, je demande à l'invité ce qu'il peut nous dire à propos d'une pratique qui est devenue récurrente ces derniers temps, c'est par rapport à l'urinothérapie, c'est-à-dire que les gens se donnent la peine de boire leurs urines pour peut-être guérir ses corps, je ne sais pas, qu'est-ce que lui peut nous dire.
D'accord, merci. Ami, si vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Ami?
Ma question est simple, monsieur le journaliste. L'invité, je trouve que l'invité est bien posé et bien calé dans la matière. Il maîtrise la matière. C'est un bon médecin à les suivants parler. Mais j'aimerais poser la question. Lui dit que voilà, le rein élimine les déchets. Et moi, ma première question, est-ce que le poison, c'est un déchet? Est-ce que le rein est en mesure d'éliminer le poison dans le corps humain? Deuxième préoccupation, il a beaucoup souligné le problème de traduits et praticiens. Lui a condamné la façon dont les traduits praticiens guérissent les malades. Ils prétendent guérir les malades, alors qu'ils ne guérissent même pas. Alors moi, je suis en train de poser la question. Quels sont des techniciens, sont des scientifiques? Pourquoi ils ne peuvent pas mettre des moyens, ils ne peuvent pas faire des recherches et dans les feuilles, dans les plantes, pour essayer un peu de préparer une dose. Parce que lui a reconnu d'abord que les traduits, ce qu'ils donnent comme médicaments, sont des vrais médicaments. Mais ce qui pose problème, c'est le problème de la dose. Est-ce que les scientifiques, comme lui est médecin, ne peuvent pas mettre de moyens dans les recherches pour essayer un peu de donner une dose?
Oui, Ami, si je l'ai pas entendu dire que c'était de vrais médicaments, mais on va quand même lui poser la question. Merci d'avoir appelé Kabouaï. On va terminer avec Kabouaï de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Kabouaï?
C'est une question à notre... Moi, je voulais juste poser cette question.
On vous écoute difficilement. Parlez un peu plus fort.
Ouais. La maladie des reins peut diminuer les besoins sexuels. Est-ce que ça peut diminuer les besoins sexuels?
D'accord. Est-ce que les maladies des reins peuvent éliminer les besoins sexuels? Docteur Viamoukoli, vous avez la parole.
Ok. En rapport avec l'urinothérapie, l'effet de boire...
De boire ses propres urines.
C'est vraiment un non-sens. Et j'aimerais vraiment avoir des paroles pour choquer. Parce que le Créateur a prévu que l'élimination des déchets se fasse par les urines. Et quand on prend ces urines, qu'on boit, dans ce moment-là, c'est comme si on veut être plus sage que les créateurs même. Alors moi, je complète toujours en choquant, en disant, pourquoi ne pas prendre aussi ces excréments à midi?
Ah ben voilà.
Comme ça, on ajoute aussi l'urine, on prend les excréments et on ajoute et l'urine. Comme ça, ça fait complet.
Oui, ça fait un repas complet.
C'est un non-sens, c'est dangereux. Il faut condamner de telles pratiques barbares qui n'ont pas de sens et qui, c'est contre nature même. C'est contre nature.
Est-ce que ça aura un impact sur les reins?
Mais bien sûr, parce que les déchets qui sont éliminés, l'urée, les acides,
vous les ramenez.
Oui. Ça comptait le fait qu'il y a des microbes aussi dans les urines qu'on va remettre dans les tubes digestifs. Donc c'est vraiment un non-sens. Il faut décourager de telles pratiques. Et ceux qui appuient ça, ils sont vraiment répréhensibles. Mmh. Et on ne peut pas accepter des choses comme ça, qui aillent plus loin, qui prennent aussi des excréments à midi. Comme ça, ils ajoutent un peu.
Ils ont un repas complet.
Un repas complet. Voilà, ouais. Ça c'est pour choquer, en fait, pour montrer que c'est un non-sens. Ok, alors pour les poisons, par rapport aux poisons, effectivement, il y a beaucoup de substances qui sont toxiques, que les reins peuvent éliminer. C'est pour cela que quand il y a un cas d'empoisonnement, les reins souffrent. Parce que les reins essaient d'éliminer, mais quand le produit est toxique, il va abîmer les reins. Voilà pourquoi dans beaucoup de cas d'empoisonnement, généralement, il y a aussi des insuffisances rénales aiguës.
Oui.
Parce qu'il essaye d'éliminer. Malheureusement, parfois, il n'arrive pas. À ce moment-là, il tombe malade. Et généralement, les tableaux d'insuffisance rénale aiguë s'installent. Alors, les besoins sexuels peuvent être diminués. Effectivement, les maladies rénales chroniques peuvent, à la longue, donner une perte des besoins sexuels, même diminuer la performance, parce qu'il y a des hormones sexuelles qui sont aussi éliminées dans les urines en cas des maladies des reins. On a dit que les reins s'agit comme un filtre, mais le filtre doit retenir ce qui est bien et éliminer ce qui est mauvais. Mais quand il y a la maladie, même ce qui est bien peut être éliminé, notamment les hormones sexuelles peuvent être éliminées dans certaines maladies des reins, et ça peut faire en sorte que quelqu'un peut avoir des dysfonctionnements au niveau des hormones sexuelles et avoir une activité sexuelle qui peut être entamée. Même si nous avons dit que les hormones des reins, ce n'est pas d'assurer la fonction sexuelle ou de la reproduction, mais ça peut impacter de façon indirecte par l'élimination des hormones qui devraient être retenues dans les corps. J'aimerais revenir sur une question qui m'a été posée sur l'âge. Hein. Je crois que
Avant de revenir sur l'âge, est-ce que vous pouvez encore rappeler les 8 éléments pour prévenir les maladies des reins?
Oui.
Dont vous avez fait allusion tout à l'heure.
Oui, nous avons dit qu'il faut boire régulièrement de l'eau, 1,5 litre à 2 litres d'eau. Il faut manger avec très peu de sel, très peu d'huile et pas trop de sucre. Il faut éviter l'excès d'alcool. Il faut pratiquer l'activité physique pour lutter contre l'obésité ou le surpoids. Il faut éviter l'automédication, que ce soit des produits de pharmacopée modernes ou des produits traditionnels. Nous avons dit qu'il faut aussi surveiller sa tension artérielle. Il faut surveiller sa glycémie. Il faut éviter les tabacs sous quelque forme que ce soit et se faire consulter au moins une fois l'an par un néphrologue pour faire un dépistage de la fonction rénale par les examens d'urine ou par l'urée et la créatinine pour voir s'il n'y a pas des anomalies qui peuvent déjà témoigner d'une maladie rénale chronique.
Septième élément, vous avez dit arrêter les tabacs et huit, surveiller le sucre.
Le sucre, ok.
Bien, on va accueillir Fabrice de Lubumbashi. La question par rapport à l'âge.
Par rapport à l'âge, donc il y a des maladies qui vont être vues plus après 40 ans, notamment des maladies rénales chroniques liées à l'hypertension et au diabète sucré, on les voit généralement après 40 ans. Il y a des anomalies liées à la prostate qu'on voit généralement après 50 ans, parce que la prostate peut augmenter de volume et bloquer les voies urinaires, tout comme il y a des maladies qu'on voit généralement chez les jeunes. Notamment les cas d'insuffisance rénale aiguë, on les voit plus chez les jeunes, notamment en cas de malaria ou d'autres infections. Par rapport à la pharmacopée, pourquoi on ne fait pas des recherches pour avoir des vrais médicaments à partir de nos plantes?
Oui, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que les plantes médicinales, les potions là, des tradis professionnels, des tradis praticiens, sont des produits reconnus?
Non.
Quelqu'un a dit ça tout à l'heure?
Non, c'est pas ce qui a été dit. Mais nous reconnaissons que dans les plantes, il y a certains principes actifs qui sont là. les principes actifs, il faut les isoler. Il faut faire des recherches, justement.
Prenez, par exemple, les Congo Bololo. Les mamans donnent à leurs enfants tout le temps les Congo Bololo pour tuer les vers intestinaux.
Pour traiter la malaria.
Traiter la malaria, diminuer les cycles.
Vous voyez un médicament qui va guérir 120 maladies. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les ministères de la recherche scientifique puissent financer la recherche. Sinon, notre pharmacopée, nos plantes, pour que nous puissions essayer d'isoler des principes actifs et faire des vrais médicaments à partir de nos plantes. C'est ce que les Chinois ont fait.
On
les
nous Chinois... parlait de Sinda, voilà, vous pouvez faire du thé, les boules ou koutou, tout ça, quand vous prenez ça, ça vous ça traite l'organisme.
Oui.
C'est ce qu'on entend souvent les gens dire.
Oui, la plupart des médicaments, même de la pharmacopée moderne, viennent des plantes, hein? Mais il faut faire des recherches là-dessus. Donc il faut que les ministères et la recherche scientifique puissent s'impliquer dans la recherche pour que nos plantes, nous puissions faire un effort pour isoler des principes actifs et faire des expérimentations d'abord sur les souris avant de faire sur les humains. Parce qu'on peut pas prendre des médicaments bruts comme ça, donner aux humains et voir, il y en a qui vont mourir, d'autres vont survivre. On commence à utiliser des hommes comme des cobayes. Mais ailleurs, par exemple, c'est que les Chinois ont fait, c'est qu'ils ont fait une pharmacopée chinoise, ils ont essayé de produire des médicaments modernes, mais à base de leurs plantes. Mmh. Et il y a même des médicaments comme ça. Il y a par exemple un médicament comme la réserpine. C'est fait avec des plantes congolaises. Mais c'est un médicament anti-hypertensif qui est là en comprimé, c'est fait par ailleurs.
Il y a donc, eu des recherches, on a tiré
les principes actifs. Nous, il faut que le pouvoir public mette les moyens à la disposition des chercheurs. Ce n'est pas un médecin, un néphrologue qui va commencer à produire des médicaments à partir de nos plantes. Ça va nécessiter des moyens et les moyens doivent venir du pouvoir public. Mmh. Donc, nous n'avons pas nié le fait que nos plantes puissent avoir une certaine efficacité. Mais le problème, c'est que tout médicament est un poison dès lors qu'on ne connaît pas. Quelle est la dose? Quelle est la durée du traitement? À ce moment-là, on s'est fait empoisonner et c'est pas bon d'intoxiquer la population.
Docteur Vieux-Moncoli, on va terminer avec la question de Fabrice de Lubumbashi. Bonjour Fabrice. Fabrice, bonjour. Voilà, je pense qu'il n'est plus en ligne. Comment prévenir les maladies de rein? Vous avez donné tous les éléments, docteur. Premièrement, nous retenons qu'il faut boire régulièrement, prendre un litre d'eau par jour.
Un litre et demi.
Un litre et demi, voilà, par jour. Pas aller au-delà de
deux litres.
Mmh. Voilà. Et puis, vous avez dit également éviter le sel, l'huile. Et
le sucre.
Le sucre. Mmh. Voilà. Pratiquer une activité sportive régulièrement. Voilà. Et combien d'heures de marche? Vous avez dit si on n'a pas le temps, on peut marcher pendant combien de temps?
30 à 45 minutes.
30 à 45 minutes par jour, chaque jour.
Hein. Oui, chaque jour. Non.
Voilà. Et vous avez dit également éviter l'automédication. Ne pas trop prendre les produits traditionnels parce que les tradis praticiens, ils font beaucoup de publicité dans les médias pour dire, voilà, nous avons des produits qui guérissent plusieurs maladies à la fois. Cinquièmement, bien surveiller la tension artérielle. Comment la surveiller?
Oui, il faut.
Est-ce qu'il faut avoir chez soi un appareil pour...
Oui, pour mesurer la
tension.
Là, c'est pour les hypertendus. Tout hypertendu doit avoir un appareil de mesure. Mais par contre, on peut aller dans un dispensaire pour prélever sa pression artérielle, pour s'assurer qu'on n'a pas l'hypertension artérielle, qui est une des principales causes des maladies rénales chroniques. Mais quand on découvre l'hypertension, il faut surveiller sa tension à domicile, il faut avoir un tensiomètre.
Voir les néphrologues une fois,
l'an.
Voilà. Oui, c'est pour faire le dépistage, arrêter le tabac. Complètement.
Complètement.
Même la cigarette, c'est
même un peu, c'est un poison. Le tabac, il n'y a aucun effet bénéfique. On ne peut pas comparer ça à l'alcool. L'alcool, on a dit, un peu d'alcool, ça peut ne pas être nuisible. Mais pour le tabac, ce n'est pas le cas. Toute consommation de tabac est nuisible, quelle qu'en soit la quantité.
Et puis, enfin, surveiller le sucre.
Effectivement.
Alors, il y a des gens qui ne prennent pas régulièrement beaucoup d'eau par jour. Ils préfèrent prendre des boissons sucrées. Ils peuvent prendre des boissons sucrées toute une journée sans prendre de l'eau. Est-ce que c'est dangereux, docteur?
Oui, c'est dangereux parce que les boissons sucrées ne peuvent pas remplacer l'eau. Et les boissons sucrées exposent au diabète sucré qui est une maladie redoutable par rapport aux maladies aux causes des maladies rénales chroniques.
Bien, docteur Vieux-Moncoli, chef de l'unité des dialyses péritonéales aux cliniques universitaires de Kinshasa et membre de l'association congolaise de néphrologie, nous vous disons merci.
Merci.
Et à la prochaine.
À la prochaine.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Aujourd'hui, on a parlé des modes de vie à adopter pour prévenir les maladies de rein. Alain Goy était à la mise en onde. Jeudi, Daniel Keshema au micro. Marcel Ngombo a assuré la réalisation de cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et excellente condition d'écoute des programmes sur Radio au Capi.